c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Manque de Béatrix qui n'est pas encore rentrée pour animer à mon côté l'émission, mais c'est toujours Antoine qui est à la technique. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de, évidemment de l'Amérique latine par rapport aux États-Unis et on parle de la beauté latine. Oui. Ensuite, nous allons parler du Brésil, de la Colombie et nous allons revenir au Brésil. Et si le temps nous permet, nous allons diffuser quelques extraits d'une émission en espagnol de Radio France Internationale. Alors, Amérique latine, États-Unis, les visages de la beauté latine aux États-Unis. Acteurs, pop stars, designers, la communauté latine d'Amérique du Nord s'affiche. Elle affirme sa langue, sa culture, ses codes esthétiques et toutes les nuances des origines du Mexique à Porto Rico en passant par Cuba. Les assauts et les provocations de Trump renforcent le phénomène comme un sursaut de fierté face à l'adversité. Longtemps absente des médias occidentaux, l'identité et la culture latine est maintenant mise en lumière. Depuis quelques années, le projecteur culturel est braqué sur des personnalités d'origine mexicaine, cubaine, colombienne, chilienne, sur les quelques 700 millions d'habitants de l'Amérique latine, combien d'identités diverses. La question identitaire est une affaire de mots. Dans les années 1970, aux États-Unis, le terme hispanique s'est imposé dans le langage politico-médiatique, ensuite remplacé par celui de latino. Aujourd'hui, Chicanos désigne spécifiquement les Américains d'origine mexicaine, fronterizos, les personnes vivant le long des 3000 km de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mais il est un point commun entre le Mexique et le Venezuela, le Guatemala et Cuba, le Honduras et l'Équateur, c'est bien l'usage de l'espagnol, principal vecteur culturel de cette identité.
Thank you.
rythme latino sur le son de Radio Libre en Périgord, émission L'Autre Amérique. Voilà, et nous allons parler maintenant du Brésil. C'est quelques extraits d'un article paru dans le journal Le Monde. Au Brésil, donc, Curitiba, c'est une ville du Brésil, nouvelle Eldorado des immigrés cubains. Le nombre de demandes d'asile déposées par des Cubains au Brésil a presque doublé entre 2024 et 2025. L'organisation humanitaire Caritas accueille les migrants à Curitiba, une ville de 1,7 million d'habitants située dans le sud du Brésil, dans l'état du Paraná. De plus en plus de Cubains franchissent la porte de Caritas en quête de soutien. Face au durcissement de la politique migratoire aux États-Unis, où se concentre la majorité de la diaspora cubaine, le Brésil apparaît, d'après les Nations Unies, comme le deuxième pays recevant le plus de demandes d'asile des ressortissants de l'île, derrière le Mexique, en raison de la politique migratoire ouverte au Brésil. Entre 2024 et 2025, le nombre de demandes d'asile déposées au Brésil est passé de 22 000 à 42 000, selon le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. La plupart des migrants de l'île entrent par le nord du pays en traversant le Suriname ou le Guyane, souvent avec des passeurs qui demandent entre 850 à 3 400 euros par personne pour organiser un périple mêlant avion, bateau, route et marche en forêt. L'arrivée des migrants se révèle plus rude qu'espérée, faute de centres d'hébergement spécifiques pour les recevoir. Face à la difficulté de faire reconnaître leurs diplômes, nombre de migrants, même les plus formés, sont contraints à accepter des emplois peu qualifiés dans des abattoirs, des usines, des hôtels. Je connais un peu tout ça. Pour aider les migrants à mieux communiquer, l'Université pontificale de Paraná met ses salles à disposition pour leur offrir des cours de portugais gratuits assurés par des bénévoles. Thank you.
resta por aí que fala tão de inútil nada, ou quase nada. Já me tirei de todos, cara, e no final não deu nada, ou quase nada.
Rythme brésilien dans les ondes de Radio Libre en Périgord, émission L'Autre Amérique. Et nous allons parler de la Colombie et une sorte d'avocat très bizarre. J'ai découvert ça. Les cultures d'avocats chassent le café. Le pays qui exportait 35 000 tonnes d'avocats H-A-S-S en 2020, en a vendu 210 000 en 2025, dont 60% en Europe. La Colombie est désormais le troisième exportateur mondial de H-A-S, derrière le Mexique, qui fournit 45% du marché mondial. L'or vert, comme on l'appelle, semble tenir ses promesses. Des pluies et des soleils tropicaux toute l'année, des montagnes qui garantissent de la fraîcheur en altitude, des sols adaptés et des ports sur les deux océans. Les avantages comparatifs de la Colombie pour produire et exporter des avocats H-A-S sont nombreux. Les autorités colombiennes n'ont pas ménagé leurs efforts pour convaincre agriculteurs et investisseurs étrangers des vertus du petit fruit vert. En campagne, le président du pays, Gustavo Petro, soucié de transition énergétique, avait promis d'exporter des avocats plutôt que du pétrole. Le pays compte aujourd'hui 55 000 hectares de culture d'avocats H-A-S, dont 40 000 sont certifiés pour l'exportation. Donc, moteur de développement rural et longtemps premier produit d'exportation du pays, le café s'est imposé au XXe siècle comme un des symboles de l'identité nationale colombienne. Le paysage culturel du café de Colombie a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011. Le café, à la différence des avocats, était essentiellement cultivé dans de petites exploitations familiales. C'est désolant pour nous, les gens du pays, de voir disparaître les plantes de café, indique Juan Gallego, guide de montagne au village de Pijao, à 1600 mètres d'altitude dans les Andes. Thank you. rythme colombien, mon pueblito, mon petit peuple. Alors, nous allons parler maintenant d'un grand pays où il y a encore des problèmes. Encore, oui. Les Quilombo, les Quilombo, terre de résistance au Brésil donc. Fondée du 16e au 19e siècle au Brésil par des esclaves en fuite, ce village refuge, aujourd'hui peuplé de leurs descendants, cultive une mémoire singulière. Mais leur avenir est menacé par la pauvreté et l'agro-industrie. Santo Isidoro se niche dans le nord de l'État brésilien de Minas Gerais. Le bourg compte environ 800 habitants, logés dans des petites maisons cubiques autour d'une église couleur savane. Santo Isidoro n'est pas un village comme les autres. C'est un quilombo. Oui, quilombo. Une communauté fondée par des esclaves fugitifs et habitée par leurs descendants. Son école, du primaire au lycée, fait une large place au récit de l'esclavage et à la culture afro-brésilienne. Le Brésil porte plus que quand autre le poids de l'esclavage. Il fut la destination de 4 millions d'Africains déportés. Le Brésil fut le dernier État des Amériques à abolir l'esclavage en 1888. Un siècle et demi plus tard, la plaie reste ouverte et les Noirs continuent de subir discrimination de toutes sortes. Symbole de liberté, fondé pour servir de refuge entre le 16e et le 19e siècle, les quilombos n'ont pas disparu. Le pays en compte plus de 8 400, dont sont issus 1 300 000 des Brésiliens. Leur sorte est un enjeu clé pour le président Lula da Silva, défenseur historique de la cause. Romain et Samba de Carnaval célèbrent dorénavant les quilombos. Notre culture a été méprisée. Désormais, elle est reconnue comme un patrimoine, se réjouit Sanette Esteve de Sousa, quinquagénaire adjointe à la culture de Berilo. Thank you. rythme brésilien. Comme Béatrice n'est pas là, on ne peut pas danser, n'est-ce pas, Antoine? Alors, quelques brèves de ce continent latino-américain. Au Pérou, il y a des élections présidentielles. Il y a une ancienne fille de Fujimori qui se présente aussi. Mais tout c'est du côté de la droite, presque extrême droite. Il y a la ex-présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui a présenté avec trois autres candidats pour devenir la secrétaire générale des Nations Unies. Et là, quelques chances, même si le président chilien a retiré l'appui. C'est incroyable, ça. Bon. Et nous avons aussi ce sommet à Barcelone qui a été, de 17 au 19 avril, a été une réunion de tous les progressistes, les leaders progressistes qui se sont organisés face aux menaces contre la démocratie. Le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a réuni donc le 17-18 avril les dirigeants de gauche du monde entier pour fédérer la gauche internationale et coordonner un véritable front anti-Trump. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Même la présidente mexicaine a été reçue comme si c'était vraiment... C'était vraiment intéressant de regarder sur YouTube là, comment elle a été reçue. Bien, mais le temps passe très vite. Nous allons écouter un peu de musique avant de finir notre émission. Notre émission L'Autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Antoine, à la technique. Muchas gracias, hasta pronto. Thank you.